Lundi matin, Tokyo. Une journée normale pour des millions de Japonais. Atsushi Sakahara vient de descendre à la station Roppongi. Journal à la main, il monte dans le métro de la ligne Ibiya. Dans le train, un homme assis près de la porte est à moitié affalé sur son siège, en sueur. À côté de lui, il y a un sac plastique enveloppé dans du papier journal. Atsushi le sait, quelque chose ne va pas. Il décide de changer de wagon. Le train repart, l'homme s'effondre. À la station d'après, le passager est pris en charge par le personnel du métro. Puis, tout va très vite. Le wagon est évacué. Et on annonce qu'une explosion a retenti à la station Tsukiji. Mais ce n'est pas une explosion. Le chaos, plutôt. Vomissement, douleur à la poitrine, toux, convulsion. Les Japonais suffoquent dans plusieurs stations du métro et cherchent à sortir de terre. Ce lundi 20 mars 1995, en pleine heure de pointe, les trains des lignes Ibiya, Marunouchi et Chiyoda ont été contaminés. Ce lundi 20 mars 1995, Atsushi a dû se rendre à l'hôpital, comme des milliers d'usagers du métro. Tous ont été intoxiqués par un gaz mortel, le sarin. God speak to me.
Scène de crime vous plonge dans l'enfer des sectes.
Your only chance to survive is to leave with us.
Nerve gas was released inside a crowded subway system in Tokyo today, and police say it was a deliberate attack by terrorists.
Les Japonais sont sous le choc. Ce 20 mars, des terroristes ont déposé, au même moment dans 5 rames du métro, des paquets contenant du sarin et les ont percés à l'aide de la pointe d'un parapluie.
A deadly nerve gas was released during the rush hour this morning on at least 3 of Tokyo's main subway lines. It looked like a scene.
Ce gaz, synthétisé par les nazis et plus mortel que le cyanure, s'attaque directement aux voies respiratoires. Une seule goutte sur la peau et c'est la mort assurée. Ce 20 mars, le sarin s'est répandu dans plusieurs stations du métro de la capitale. Bilan, 13 morts, plus de 6000 blessés. Certains resteront handicapés à vie. Qui a pu commettre une telle attaque? Une attaque gratuite, destinée à éliminer un maximum de personnes. Les enquêteurs excluent rapidement les groupuscules politiques radicaux. Et les regards ne vont pas tarder à se tourner vers une secte, Aum Shinrikyo. Ce mouvement religieux est bien connu des Japonais. Certains observateurs, des proches des adeptes, dénoncent d'ailleurs depuis quelques années les pratiques douteuses de l'organisation. Aum Shinrikyo rassemble environ 10 000 membres dans le pays, et des milliers d'autres à l'étranger. En plus de son activité religieuse, la secte possède une entreprise spécialisée dans la vente de micro-ordinateurs, des restaurants, un club de remise en forme, un supermarché, un hôpital, bref, beaucoup d'argent. Son idéologie ? Un mélange entre le bouddhisme, l'hindouisme et l'apocalyptisme chrétien. Les adeptes sont pour beaucoup de jeunes diplômés qui ont fréquenté les grandes universités du pays. Rejoindre Aum, c'est faire le choix d'une vie simple et se détacher de cette société consumériste et matérialiste. Des disciples respectent des pratiques ascétiques. Ils font du yoga, de longues méditations. Jeunes passent des nuits sans dormir et mettent leur corps à rude épreuve. Le but ? Atteindre l'illumination. C'est en tout cas ce que leur promet leur guide, un homme aux cheveux longs, à la barbe hirsute, que l'on voit parfois à la télé et qui donne des conférences dans les universités. Un certain Shoko Asahara. Shoko Asahara, de son vrai nom Shizuo Matsumoto, naît en 1955 à Yatsushiro, dans une famille modeste. À moitié aveugle à cause d'un glaucome, il est envoyé en internat dans une école pour non-voyants. Après avoir échoué à l'examen d'entrée de l'université de Tokyo, Shoko Asahara décide de se former à l'acupuncture et à la médecine chinoise. En 1984, il monte une école de yoga où il enseigne à ses élèves différentes techniques de méditation. Ce sont les prémices de la secte. Aum Shinrikyo, la secte Aum Vérité Suprême, est officiellement fondée en 1987 et va rassembler de plus en plus de monde. En 1989, la secte obtient le statut officiel d'organisme religieux, ce qui lui permet notamment de bénéficier de l'exonération fiscale pour ses revenus sous forme de dons. Son leader est un homme médiatisé. Il donne des interviews, a déjà rencontré le Dalai Lama et reçu sa bénédiction. Il est tout à fait crédible. Cette année 89, le gourou décide de franchir une étape supplémentaire et se lance en politique. Il annonce sa candidature aux législatives avec 25 autres de ses disciples. Personne ne sera élu. Pour certains observateurs, cet échec est un tournant. Un tournant vers la violence. La secte, dont les activités restent très secrètes, avait déjà commencé à faire quelques émules. Le 22 décembre 1988, un disciple meurt d'une crise cardiaque lors d'un entraînement intense supervisé par le gourou. Son cadavre est brûlé, la secte étouffe l'affaire. Un autre adepte, témoin de l'incident, tente de quitter Om. Il est assassiné le 10 février 1989. En parallèle, des familles d'adeptes dénoncent le lavage de cerveau de leurs proches, qui lèguent leurs biens pour rejoindre les rangs d'Om. L'avocate Tsutsumi Sakamoto représente ces familles. Au mois de novembre 1989, il est assassiné avec sa femme et son bébé. La secte est donc prête à tout pour faire taire les oppositions, mais elle ne va pas s'arrêter là. Shoko Asahara a une certitude. La fin du monde est proche. Om doit se préparer à une troisième guerre mondiale, une guerre contre la société japonaise. Une guerre qui permettra à Shoko Asahara de devenir le leader du nouveau monde. Grâce aux moyens dont elle dispose et aux qualifications des adeptes, Om commence à développer des armes. Le gaz sarin est mis au point. Le produit est d'abord testé en Australie, sur des moutons. Puis, après les animaux, il faut bien voir si ça fonctionne sur les humains, non ? Ce sera le 27 juin 1994 à Matsumoto, au centre du Japon. En pleine journée, un camion disperse du gaz sur le parking d'un supermarché dans un quartier résidentiel. 7 personnes meurent et plus de 200 sont intoxiquées. À l'époque, la police ne parvient pas à identifier les auteurs de cette attaque. La journaliste Shoko Egawa, qui enquête sur la secte, elle, en est persuadée. C'est un coup de Om. Elle en informe les autorités. Mais la police préfère fermer les yeux. Il faut éviter tout scandale. Elle pourrait être accusée de persécuter un organisme religieux. L'attaque de Matsumoto était pourtant un essai, une préparation pour un projet bien plus ambitieux. L'attentat du métro de Tokyo. Kami Kuchiki, 22 mars 1995. 2500 policiers débarquent au QG de la secte, un grand complexe situé au pied du mont Fuji. La police découvre sur place des produits particulièrement dangereux, un véritable arsenal chimique. Mais ce n'est pas tout. Une cinquantaine de personnes sont là, plus ou moins conscientes. Elles sont déshydratées, sous-alimentées ou bien sous l'emprise de la drogue. Le gourou, lui, se cache toujours. La police continue à perquisitionner les différents sites de la secte. Elle fait des découvertes surprenantes et trouve notamment des os humains. De nombreux adeptes seront interpellés et interrogés. Les enquêteurs réunissent suffisamment de preuves. Om est bien responsable de l'attaque du métro de Tokyo. Le 16 mai 1995, au matin, 2 mois après l'attentat, la police retourne au QG de la secte. 600 membres des forces anti-émeutes lancent l'assaut. Il leur faudra 4 heures pour mettre la main sur l'homme le plus recherché du pays. Vers 10h30, les policiers trouvent une petite pièce dissimulée. Shoko Asahara est là, en position lotus, vêtu de mauve. Il ne cherche pas à se défendre. Shoko Asahara et quelques-uns de ses adeptes sont poursuivis pour l'attentat de Tokyo, celui de Matsumoto, pour des assassinats d'adeptes ou encore le meurtre de l'avocat Tsutsumi Sakamoto. Le procès va s'éterniser. Le 27 février 2004, le verdict tombe. C'est la peine capitale.
Shoko Asahara, the leader of the Doomsday Cult behind the deadly 1995 nerve gas attack on the Tokyo subway system, was executed by hanging on Friday.
En juillet 2018, Shoko Asahara et 12 de ses adeptes sont pendus.
Matsumoto s'est livré à des actes criminels de façon répétée, sans aucun contrôle ni contrainte, jusqu'à commettre des assassinats de masse. Il a manipulé plusieurs de ses fidèles afin qu'ils exécutent des actes criminels systématiques et planifiés. Il a aussi utilisé sa secte religieuse comme couverture et a déformé la définition de religion pour justifier ses actes criminels.
La secte a depuis changé de nom, elle est toujours en activité.
C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur samintéresse.fr.